consiste à éviter, au moins temporairement, le contact avec cette personne dont les réactions me menacent. La réaction de combat prend le plus souvent la forme d'un affrontement, où j'interdis à l'autre de soulager sa tension en m'agressant. Dans le cas où je crois devenir tendu par osmose, simplement par l'effet de la présence de l'autre qui est stressé, le problème est plus difficile à résoudre, parce que j'ai perdu contact avec une partie de mon expérience. Dans cette situation, la tension de l'autre m'atteint sans que je sache ce qu'elle touche en moi, sans que je sois capable d'identifier le danger qui me menace. Tant que je n'aurai pas réussi à me retrouver, il me sera difficile de choisir une solution appropriée. En somme, ce deuxième cas est semblable au premier, à l'exception du fait que je ne parviens pas à reconnaître clairement ce qui me menace. Pour y parvenir, il faut d'abord que je m'isole pour faire un effort de centration. Le journal de bord, de même que la respiration et la contemplation, sont des outils qui peuvent nous aider à y parvenir.
La fuite comme option saine possible. Votre texte laisse croire que la fuite est toujours une option saine possible. Je ne suis pas d'accord. Dans certaines situations qui s'imposent à nous, comme la maladie terminale d'un proche ou un drame familial, la fuite n'est pas toujours possible ni souhaitable. Ces situations stressantes s'imposent à nous et la seule option valable est alors le combat. La fuite serait destructive car elle exigerait qu'on s'occupe d'une expérience qui nous rejoint et nous concerne.
Chacun de nous peut décider que la fuite est une solution inacceptable au problème. C'est le privilège des humains de prendre des décisions abstraites sur le plan des principes. Nous pouvons même décider d'en faire des valeurs auxquelles nous voulons nous soumettre en tout temps et que nous utiliserons pour nous évaluer. Mais lorsqu'on parle de la mobilisation globale de l'organisme en réaction à un danger, on se situe à un niveau plus primitif et instinctif. Devant un danger imminent, c'est automatiquement que nous devenons mobiliser de façon globale et que nous faisons une évaluation de la situation, la nature du danger, les forces dont nous disposons, celles qui nous menacent, les possibilités et les limites de l'environnement immédiat sont des dimensions que nous examinons en un instant grâce à l'acuité de nos sens et de nos réflexes. Rappelons-nous par exemple la dernière fois où nous avons failli avoir un accident de voiture. Nous avons perçu l'ensemble de la situation d'un coup d'œil et en avons évalué instantanément les dangers et les possibilités d'y échapper. Dans cette situation, l'évaluation est simple. Si la source du danger me semble plus forte que moi, je cherche les façons de l'éviter. Je choisis la fuite. Mais si elle me semble plus faible que moi, si j'estime globalement être capable de la neutraliser, alors je cherche les moyens de la vaincre. Je choisis le combat. À partir de cette évaluation, mon choix s'impose de lui-même comme le seul sain, c'est-à-dire le meilleur pour assurer ma sécurité. Parfois, l'affrontement est la seule solution vraiment saine. Parfois, c'est la fuite ou l'évitement qui constitue la seule issue. Quelquefois, nous avons le choix entre le combat et la fuite. Mais il est toujours crucial, pour éviter le stress, de reconnaître et de respecter les choix fondamentaux que nous dicte notre organisme. Mais est-ce aussi simple lorsque des situations graves s'imposent à nous? Si mon enfant est malade et risque d'en mourir, ai-je le choix de fuir la situation? Il n'est pas question que je l'abandonne pour me protéger de cette douleur trop forte pour moi. Je n'ai donc pas le choix. D'abord, il faut distinguer. Nous parlons ici de réagir devant le danger, et non de vivre des émotions intenses. Une situation dramatique peut m'amener à vivre des émotions très fortes et extrêmement pénibles, sans me menacer de stress. Pour parler de stress, il faut parler d'un danger immédiat qui nous menace sérieusement. C'est la mobilisation massive de l'organisme contre un danger imminent qui est à la source du stress par les émotions intenses, même pénibles. Autant il est essentiellement sain de fuir un danger auquel nous sommes incapables de faire face avec succès, autant il est malsain de fermer les yeux sur nos émotions et nos réactions devant les situations où nous sommes. Fuir un ennemi trop fort n'est que la conséquence de nos réactions instinctives. Fuir la tristesse qui nous habite, c'est au contraire refuser les réactions de notre organisme. Il est malsain pour moi de me fermer devant la peine que j'ai lorsque je perds un être cher. Je ne pourrais le faire longtemps sans payer le prix, perte de vitalité, anxiété grandissante et symptômes divers qui viennent remplacer les indices émotion que je repousse. Mais ce n'est pas de stress que je souffre alors. Souvent, cependant, ces situations s'accompagnent d'appréhensions durables. Tant que je suis inquiet pour la vie de mon enfant, je demeure nerveux. On peut croire alors que je me trouve en face d'un danger important et que je pourrais devenir stressé. Mais en réalité, il s'agit d'un danger qui ne mobilise pas mon organisme de la même façon qu'en situation d'urgence. Le danger appartient à l'avenir plus qu'au présent. C'est d'appréhension ou d'angoisse que je souffre, et non de peur, ce qui supposerait une menace présente. Je crains ce qui va se passer dans quelques heures, quelques jours ou quelques mois, et non dans quelques instants. Cette différence entre la peur et l'angoisse est d'une importance majeure. Comme l'explique Michel Larivet, l'angoisse signale qu'on repousse une expérience présente. L'appréhension, dans l'exemple ci-dessus, nous amène à ne regarder que l'avenir parce qu'on croit que c'est là que se trouve l'important. Mais en réalité, cette attitude détourne notre attention de ce qui est le plus important et qui est déjà présent, une émotion que nous refusons de ressentir. Par exemple, il pourrait s'agir d'une peine immense que nous ne voulons pas nous laisser aller à ressentir, d'une fureur révoltée dont nous ne savons que faire, du sentiment de ne pas avoir été assez présent, etc. L'angoisse nous révèle alors que nous fuyons ce qui nous habite et qui est important. C'est cette fuite qui est réellement malsaine.
Expression suffisante. Vous écrivez que faire l'expression suffisante est très important pour résoudre les problèmes de stress. Pourriez-vous expliquer davantage ce que vous entendez par là ? À quoi ressemble cette expression qui est au cœur de la solution au stress ?
Cette expression suffisante peut prendre un très grand nombre de formes. En effet, l'essentiel de cette étape est d'accomplir des gestes qui concrétisent ouvertement les choix qu'on a faits à l'étape précédente, prendre des décisions. C'est l'application des décisions devant les autres, particulièrement devant ceux qui contribuent à créer les pressions qu'on veut résoudre. Que ce soit en mots, en gestes, par écrit ou autrement, l'essentiel c'est qu'il s'agit d'une façon d'être où on assume ouvertement ses choix. Dans certains cas, il s'agit avant tout d'être actif et expressif dans les situations de tension. Par exemple, c'est la solution préférée de Paul, le journaliste. Lorsqu'il devient nerveux parce que son heure de tomber approche, il exprime sa nervosité, la manifeste dans ses gestes et la fait connaître à tout son entourage. C'est même devenu une espèce de blague entre lui et ses collègues. Pour une autre personne, il s'agirait surtout de résister ouvertement aux pressions que les autres tentent volontairement ou non d'exercer sur lui. C'est par exemple ce que fait Gisèle lorsque son conjoint envisage de raccourcir ou de déplacer les vacances à cause des difficultés auxquelles il fait face au travail. Elle combat ses tentatives avec une telle vigueur qu'il en est venu à ne plus essayer d'abréger ses vacances ou les week-ends en famille. Pour d'autres encore, il s'agira d'affronter directement quelqu'un qui est au cœur de la pression qu'ils subissent. Par exemple, Maurice aurait intérêt à aborder directement avec son patron le problème de relation qu'il n'arrive pas à résoudre. Idéalement, son action expressive ne consisterait pas à éclater en pleine réunion au moment où son seuil de tolérance sera dépassé. Il devrait plutôt chercher à devancer ce moment en obtenant une rencontre en privé pour essayer de s'expliquer avec son supérieur et éventuellement trouver avec lui des solutions pour l'avenir. S'il ne fait pas une telle démarche, il en viendra sûrement tôt ou tard à faire une scène dans une situation inadéquate ou à éteindre ses réactions au point de faire un burn-out ou une dépression. Enfin, une dernière forme que peut prendre cette expression suffisante est d'assumer sa décision, de ne plus tolérer la situation de pression qu'on ne peut plus accepter. Il s'agit alors de faire savoir aux personnes directement concernées, celles qui contribuent à créer cette pression, qu'on a décidé de ne plus tolérer ce stress. Cette action expressive peut prendre la forme du combat ou de la fuite. Il s'agit d'un combat si on choisit de rester sur place et de résister aux pressions du milieu, un peu comme dans le cas de Maurice. C'est la réaction de fuite si on décide de quitter ce milieu parce qu'on ne parvient pas à résister à ses pressions et à ses sollicitations. Cette fuite est parfois la seule solution saine, celle où on choisit de privilégier sa qualité de vie et son bonheur.
Répartition des responsabilités et non des tâches. Vous semblez dire qu'il y a une différence importante entre se répartir des responsabilités et des tâches dans un couple. Vous laissez entendre que ça pourrait avoir des conséquences au niveau du stress. Est-ce que je comprends bien? J'aimerais avoir des explications.
La différence est importante, en effet. Depuis quelques années, la participation des hommes et des femmes au marché du travail est de plus en plus équivalente. De même, le souci d'équilibre, d'équité et même d'équivalence entre les rôles joués par les hommes et les femmes grandit constamment. Il en résulte souvent dans les familles et les couples modernes une nouvelle répartition des tâches. Cette répartition peut devenir un champ de bataille infernal si on l'aborde avec une attitude mesquine. Elle peut aussi devenir très complexe et nécessiter des réajustements très fréquents si on cherche à répartir, en les équilibrant, toutes les tâches qui font partie de la vie familiale. Souvent, on en arrive ainsi à des répartitions qui en fait ne soulagent personne et augmentent le fardeau total et les tensions qui y sont rattachées. En répartition plutôt des zones de responsabilité, on permet à chacun de décider d'une organisation d'ensemble qui lui convient pour assumer ce qui lui revient, et en même temps d'oublier complètement les domaines dont il n'a pas la responsabilité. De cette façon, la pression que chaque partenaire doit assumer à ce sujet est réduite au minimum et contribue de façon significative à diminuer chez chacun les risques de stress. Par exemple, il peut être bénéfique à un couple de décider que tout ce qui concerne l'entretien de la maison sera entièrement sous la responsabilité d'un des conjoints, alors que tout ce qui touche à l'alimentation de la famille devra être assumé par l'autre. Le fait de n'avoir pas à se soucier d'un de ces deux secteurs de la vie familiale est un soulagement. Le fait de pouvoir organiser l'autre secteur librement et à notre guise, sans attendre de collaboration ou d'aide, est également un soulagement, car cela permet de faire les choses comme nous le jugeons opportun, au moment qui nous convient, au rythme qui est le nôtre, et sans avoir à nous justifier continuellement. Mais cette solution ne peut convenir à tous. Il faut, pour l'appliquer, être prêt à abandonner le contrôle sur les façons de faire de l'autre. Il faut le laisser assumer ses responsabilités à sa façon, avec un rythme et des méthodes qui lui conviennent. Si on continue à surveiller comment l'autre s'y prend et quand il le fait, on n'est pas soulagé. On souffre au contraire de chaque différence de style, ce qui est plus fatigant que de tout faire soi-même. Cette répartition des responsabilités doit donc être faite en tenant compte du désir de contrôle de chacun. La personne qui tient à ce que tel genre de choses soit fait d'une façon particulière doit absolument être celle qui en assume la responsabilité. Autrement, elle sera mal à l'aise et tendue devant la façon de faire de l'autre, et ce dernier subira une pression supplémentaire découlant de cette bienveillance et des critiques qui en découleront inévitablement.
Stress infantile. Que dites-vous sur le stress infantile? Est-ce la même chose que celui de l'adulte?
Je ne travaille pas avec les enfants et je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Mes réponses ne sont donc que des réflexions personnelles destinées à vous inviter à faire votre propre cheminement à ce sujet. En principe, un enfant pourrait être stressé d'une façon analogue à celle des adultes. Rien n'empêche en effet qu'un enfant, dans certaines circonstances, se sente en danger et soit mobilisé pour réagir à ce danger. C'est une chose fréquente. De même, certains enfants, plutôt sages, peuvent être assez inhibés ou peuvent retenir suffisamment leurs réactions pour que leur tension se transforme en stress si elle dure assez longtemps. Heureusement, la plupart des enfants sont relativement incapables de contrôler leurs réactions et de retenir longtemps leur action. C'est ce qui leur permet d'échapper au stress malgré des conflits intérieurs ou interpersonnels qui seraient bien suffisants pour en provoquer. Dans la plupart des cas, ces tensions et ces conflits se répercutent directement sur le comportement. C'est une chance, car les troubles de comportement sont plutôt évidents, contrairement au stress qui est une expérience essentiellement intérieure. De cette façon, les adultes qui entourent l'enfant sont en mesure de découvrir, avant qu'il soit trop tard, qu'il y a un problème à résoudre. S'il s'agissait de stress, les indices seraient beaucoup plus difficiles à déceler et les problèmes pourraient s'aggraver plus longtemps avant qu'on les découvre.
Stressé et introverti. Mon mari étant assez stressé est plus introverti que moi. Il gère difficilement son stress. Croyez-vous qu'il y ait un rapport entre les introvertis et les gens stressés?
Globalement, selon la conception du stress présentée dans ce chapitre, on pourrait dire que oui. Le fait d'être introverti peut prédisposer une personne au stress. En effet, si on comprend que la pression ne devient stressante que dans le cas où on inhibe la réaction naturelle, action intense de fuite ou de combat, on s'attend à ce qu'une personne dont les réactions se manifestent moins librement devienne plus facilement stressée. On pourrait dire la même chose de tous les types de personnes dont l'expression est contenue. Cependant, il ne faut pas généraliser à l'excès. Toutes les personnes stressées ne sont pas introverties et toutes les personnes introverties ne sont pas forcément stressées. Bien d'autres facteurs contribuent au résultat final, les pressions de l'environnement et de la situation, un sens du devoir où on passe par-dessus ses besoins, des valeurs qui ignorent la satisfaction, etc.
Stress post-traumatique. Vous mentionnez très rapidement que les réactions post-traumatiques sont une réalité.